le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 décembre et nous célébrons Noël. Pour cette émission spéciale, nous accueillons le pasteur Michel Bloch de l'Église protestante unie de France à Brest. Il nous propose une méditation intitulée « Une ferveur qui dure ».
Im Hirtenchor erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. En cette matinée tout à fait particulière, j'ai à cœur de partager avec vous un message qui me touche personnellement. Qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, que vous soyez seul chez vous ou entouré de votre famille, que vous soyez sorti hier pour assister à une veillée de Noël ou que vous ayez passé la soirée devant votre téléviseur, qu'il y ait ce matin chez vous plein de papiers d'emballage qui traînent ou qu'il n'y ait même pas de sapin de Noël, Dieu veut vous faire un cadeau. Un cadeau de plus, ou le seul que vous recevrez. Mais ce cadeau n'a pas de prix. C'est celui de son amour, de la place qu'il veut vous faire près de lui, sans que vous n'ayez rien à faire en retour pour le mériter. Car il vous aime. Il veut vraiment vous le donner gratuitement. Que ce don qu'il vous offre soit pour vous ce matin source de paix et de joie. Je vous invite à partager maintenant un moment de louange. Aujourd'hui, les anges chantent dans le ciel. Mon frère, ma sœur, tu es invité à chanter avec eux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Aujourd'hui, les bergers vont à Bethléem. Ma sœur, mon frère, tu peux aller avec eux. Ils partent à la recherche de Joseph, de Marie, de l'enfant nouveau-né, et ils t'appellent à chercher avec eux. Ils s'enthousiasment et rendent gloire à Dieu de tout ce qu'ils ont vu et entendu. À ton tour, tu peux t'émerveiller. Ils proclament la parole qui leur a été dite au sujet du Sauveur, Messie et Seigneur. Tu peux recevoir cette proclamation et proclamer Jésus avec eux. Marie garde avec soin toutes ces paroles et les médite en son cœur. À ses côtés, tu peux prier. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Alléluia.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in insistez-vous, ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel.
Pour entendre le projet que Dieu formule pour nos vies, faisons nôtre ces quelques béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent en ce petit enfant né sur la paille le Seigneur et le Sauveur du monde. Heureux ceux qui reconnaissent qu'à travers Jésus-Christ, Dieu vient rétablir avec chacun de nous une relation épanouie. Heureux ceux qui reconnaissent dans le monde déchiré et souffrant la présence et l'attente du royaume de Dieu. Heureux ceux qui se lèvent pour aimer et servir ce Dieu qui, par amour, est descendu jusqu'à eux. Mais parce que Dieu nous aime, parce qu'il veut notre bien, nous pouvons déposer dans la prière tout ce qui nous sépare encore de lui. Dans notre monde, Dieu s'est fait homme, et nous célébrons aujourd'hui sa venue parmi nous. Et pourtant, à nous regarder, il semblerait parfois que rien ne se soit passé. Ô Père, tu connais les compromissions secrètes ou avouées que parfois nous faisons avec le mal. Tu sais tout ce qui retarde en nous et autour de nous l'arrivée de ton royaume de paix. Tu n'ignores rien de nos calculs, de nos estimations, les désirs que nous voulons contrôler et les plaisirs que nous prétendons maîtriser. En ce jour de Noël, viens nous remettre au cœur la certitude que par Jésus-Christ, tu as fait disparaître tout ce qui nous éloignait de toi. Amen. Il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au verset 1 du chapitre 55, « À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. » Dans ce monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, dans ce monde où rien ne se prête mais tout se prend, où l'on résume ce que vous êtes à votre compte courant, j'annonce avec joie le pardon de Dieu. Pardon gratuit et libérateur. Pardon donné de la part de Dieu, qui n'attend rien en retour pour régler des comptes, mais qui espère voir notre vie fleurir de cette bonne nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de ce pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume.
Was Gott dem Abraham verheißen, das lässt nun dem Hirten Chor erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen.
Je vous invite à prier avant de vous faire entendre un texte de la Bible pour que les mots que nous allons écouter résonnent dans nos vies comme la vraie parole de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que l'histoire que nous allons entendre puisse nous parler de notre relation avec Dieu fait homme, une relation toujours changeante et toujours nouvelle. Amen. Je vous propose de lire un passage de l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Quel bonheur de pouvoir à nouveau partager la joie de Noël. Un temps d'accomplissement, un temps où nous pouvons savourer la réalisation de notre attente. Pourtant, au sein même de cette attente réalisée, nous pouvons parfois ressentir un peu de déception. Comme si le soufflet de notre attente qui a su allumer le feu de notre ardeur ne pouvait que retomber. Très souvent, les enfants, une fois qu'ils ont reçu leur cadeau, après un pic d'excitation et de joie très forte, retombent dans une sorte d'état blasé. Très souvent, les adultes, après le bon repas du réveillon, en considérant les reliefs de la table, peuvent ressentir une sorte de vague à l'âme. Oh, pas seulement parce qu'il va falloir tout ranger et faire la vaisselle, mais surtout, je crois, parce que cette situation signifie que la joie de l'attente prend fin. Oui, les meilleures choses ont une fin, comme dit le proverbe. La fête et le partage, comme tout le reste. Mais alors, qui dira qu'il n'est pas triste de voir la joie de Noël décliner et s'éteindre? Qui dira qu'il n'est pas terrible de sentir la ferveur s'affadir? Comment faire pour maintenir encore cette flamme vacillante alors que la routine du quotidien s'apprête à reprendre son rythme étouffant? Ou bien encore que la parenthèse ouverte par ce temps de Noël sur les malheurs de notre vie va se refermer? Comment la joie chrétienne peut-elle être plus qu'un feu de paille? Cette question de la durabilité est un problème fréquemment évoqué de nos jours. Un des grands enjeux économiques de notre temps s'énonce dans le développement durable. Il en va de l'avenir climatique de notre monde. Mais je crois que ce problème dépasse même la seule dimension écologique. Notre société tout entière est confrontée à ce manque de profondeur et à son impermanence. De nos jours, depuis les objets de consommation en toc jusqu'au monde politique qualifié de bling-bling, tout obéit à la logique du court terme. Pour tenter de pallier à ce déficit, notre monde est entré dans l'engrenage du « toujours plus ». Pour ne pas avoir à trop souffrir de la disparition rapide de tout ce qui nous entoure, nous nous proposons toujours quelque chose de neuf à nous-mêmes. C'est par exemple ce qui se passe avec l'actualité. Nous ne pouvons prendre la mesure d'aucune nouvelle, car chacune est très vite chassée de notre horizon par l'information suivante. Tout nouvel objet de consommation est très vite dépassé par son successeur. Mais le problème de cette attitude de consommation effrénée est qu'elle crée une sorte de fuite en avant. Une accumulation de choses qui ne durent pas et qui n'a par elle-même aucun sens. Pire encore, Cette accumulation ne fait qu'augmenter le sentiment tragique qu'il est insupportable de voir les plaisirs que nous procure ce monde se faner si vite. Et nous pouvons alors rentrer dans une mécanique infernale. Mais alors, est-ce que la foi chrétienne a autre chose à proposer ? Je crois que le texte que nous avons lu nous permet d'envisager une proposition alternative. Mais cela va bien à l'encontre de nos habitudes de consommation. Je vais m'appuyer sur les comportements des personnages cités dans ce texte, les bergers tout d'abord, et la discrète Marie pour finir. Prenons donc la situation des bergers, passant la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Tout semble commencer selon des manières de faire très proches de celles de notre monde. Quelle surprise, quel bouleversement cela a dû être pour ces bergers que cette venue d'un ange, puis de toute cette foule d'anges. La gloire de Dieu, les chants de l'armée céleste, quelle campagne de publicité incroyable! J'imagine que pour bien des entrepreneurs de notre époque, cela serait un plan marketing du tonnerre. Pourtant, il y a quatre motifs de grande surprise pour moi dans ce que le premier ange leur dit. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Première surprise, cette nouvelle annoncée aux bergers, isolés dans leur campagne, tenus à l'écart de la société de l'époque, parce qu'en raison de leur activité, ils ne pouvaient pas mettre en pratique tous les commandements de la loi, eh bien cette nouvelle ne leur est pas réservée. On aurait pu s'attendre à ce que l'injustice de leur exclusion soit compensée par une annonce qui les concerne en particulier, exclusivement. Gâtons-les un peu, ces pauvres bergers exclus. Donnons-leur une prééminence qui rétablira la justice sociale. Eh bien non. Ce cadeau, il est une source de grande joie pour tout le peuple, dit l'ange. Il est, ou plutôt il sera. C'est mon deuxième étonnement. Le cœur de la promesse de l'ange est prononcé au futur. Bien sûr, cela se comprend. Le Messie, le Sauveur, vient juste de naître. Il faudra un peu de patience avant qu'il ne puisse accomplir sa destinée. La patience. Voilà bien un comportement qui n'est pas encouragé de nos jours. D'autant plus que, et c'est ma troisième surprise, ce roi, ce Messie, n'est pas annoncé comme se trouvant dans un palais. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Pour le décorum, on peut rêver mieux. Alors que nous avions été très impressionnés par les chants des anges, nous voici arrivés devant une mangeoire à bestiaux. Voilà qui n'est pas très vendeur comme message. Serait-ce de la publicité mensongère ? D'autant plus que, lorsque les bergers vont à leur tour répandre la nouvelle, il ne semble pas que leurs affirmations aient reçu beaucoup d'écho. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient, dit le texte. Certes, mais c'est bien tout. Cet étonnement n'est pas celui de la foi. Aucun mouvement de foule jusqu'à cette fameuse mangeoire, aucune scène d'adoration collective, comme peuvent en susciter nos rockstars ou certains politiques. Quoi, des bergers qui viennent annoncer avoir entendu Dieu leur dire que le Messie d'Israël venait de naître dans une mangeoire ? Voilà qui peut sembler très farfelu, mais pas forcément de nature à se mobiliser. Enfin, et c'est mon quatrième et dernier étonnement, ce message ne comporte aucun impératif. Aucun « allez-y vite, précipitez-vous pour profiter en exclusivité de la contemplation du Messie en avant-première ». Les bergers, au fond, sont laissés libres. Une promesse leur est faite, qui n'est en aucun cas une obligation. Ici, pour eux, se joue leur foi. Ils ne vont pas se rendre à Bethléem pour vérifier si ce que l'ange leur a dit est vrai, mais ils partent dans le seul désir de voir cette promesse qu'ils savent déjà réaliser. allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Pour eux, rien n'est ici à mettre en doute, rien n'est à soupçonner. C'est Dieu qui a promis, pas un agent publicitaire. À partir de là, on n'entendra plus parler des bergers. Il y aurait de quoi rester sur notre faim, car ce que nous avons récolté jusqu'à présent peut paraître bien maigre. Au fond, ce qui relève de l'annonce de la foi n'a rien à voir avec les techniques commerciales de ce monde. Cela est tout de même déjà très important. Car en effet, Dieu ne correspond pas à nos façons de faire. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies, a enseigné le prophète Ésaïe. Dans cette sorte de contradiction, je vois pour ma part le signe de l'authenticité divine. Si les bergers se sont déplacés jusqu'au lieu où Jésus se trouvait avec ses parents, ce n'est pas suite à une bonne manipulation publicitaire, mais sur la base d'une promesse dont ils ont cru qu'elle était réalisée. Un autre monde assoiffé de choses à posséder et maîtriser, le christianisme vient rappeler l'importance vitale de la confiance. Mais comment faire pour vivre cette confiance de façon durable ? Observons alors le comportement de Marie. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Voici la façon dont Luc nous parle de la mère de Jésus. Marie a gardé le souvenir de tous ces événements. Autrement dit, elle s'est empêchée de jeter cette joie. Ce miracle qui lui était donné, d'une façon tellement hors norme. Mais au contraire des bergers, elle n'a rien dit. Mais elle n'a pas simplement fait silence. Elle a médité tout cela dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle en a fait l'aliment de son amour et de sa prière. Elle n'a pas simplement conservé tout cela dans son esprit pour y réfléchir et essayer de le comprendre. Non, elle a considéré ces choses comme des signes, confirmant ce qu'elle-même avait connu de l'amour de Dieu pour elle et à travers elle pour toute l'humanité. Ainsi, gardant en son cœur ce trésor d'amour, s'empêchant d'en parler trop vite, trop tôt, faisant de ces événements le motif de sa prière, elle a pu suivre son Fils tout au long de sa vie et jusqu'au moment le plus cruel de sa mort sur la croix. Quelle fidélité ! Quelle ferveur profonde et durable ! C'est à cette ferveur-là, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. C'est à cette façon de conserver la joie que l'Évangile nous invite. Gardons donc dans nos cœurs et retenons dans le silence de notre prière tous les bienfaits que Dieu nous a donnés en nous donnant son Fils et en nous accompagnant tout au long de notre existence. Relisons chaque jour de notre vie en en retirant ce qui peut alimenter notre prière et notre reconnaissance pour l'amour de Dieu. Alors, notre joie ne faiblira pas et nous demeurerons fidèles. Frères et sœurs, ainsi soit-il.
Ein Hirt hat alles das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen.
Père, tu nous as offert ta parole. Et tu nous as comblés de tes biens. Tu nous donnes ton Fils, et tu nous donnes des frères et des sœurs. Béni sois-tu. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans la peine, dans la maladie et dans la solitude, ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Nous te prions, Seigneur, pour ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont une insulte, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, ceux qui sont privés de toute dignité. Seigneur, nous te confions ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s'endurcissent contre la bonne nouvelle. Nous te remettons notre monde, ses responsables et tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme les bergers, allons à notre tour partager notre joie et notre espérance. Le monde a tellement besoin d'entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible que sa course folle après toujours plus de possessions. Comme Marie, gardons toutes ces promesses au fond de nos cœurs. Ne les dispersons pas distraitement, mais revenons régulièrement nous réchauffer à leur mystère. Notre monde a tellement besoin de femmes et d'hommes dont les yeux brillent de la lumière de Dieu. Pour cela, soyons assurés que Dieu nous bénit. Frères et sœurs, pour ce jour de fête, et pour toute cette année qui s'annonce, que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit par vous. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui pour cette célébration de Noël avec le pasteur Michel Bloch de l'Église protestante unie de France à Brest. Merci à Clotilde Pivin pour la réalisation, à Pierre Monteil pour la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez trouver le texte de cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Si vous désirez le recevoir par courrier, ce texte, eh bien vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 09 Paris. Restez à l'écoute de France Culture. Tout de suite, la suite des programmes de Noël.